Les études que je présenterai lors de ce congrès seront fondées essentiellement sur les 8 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Romains. Ces études ne seront pas un commentaire détaillé de ces 8 chapitres, mais elles reposeront essentiellement sur ce texte. Nous n'aurons pas le temps de lire chaque soir une partie de ces 8 chapitres. Aussi, je vous recommanderais, si vous le pouvez, de les lire pour vous-même, parce que je tiendrai compte, au fond, de ces 8 chapitres pour faire mon exposé. Le premier sujet qui nous concerne ce soir est le suivant: de quoi sommes-nous sauvés? La proclamation du salut est ou devrait être l'une des caractéristiques fondamentales de l'Église chrétienne, de la religion chrétienne. Dans l'une des premières proclamations de l'Église, peu de temps après la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclare devant les autorités juives: « Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. Et ce même Pierre, dans la toute première prédication chrétienne, le jour de la Pentecôte, disait à ses auditeurs: « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Actes chapitre 2, verset 40. Et dans ce même contexte, la première définition de l'Église que nous possédions décrit les croyants comme ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 2, verset 47, je crois. Donc l'Église proclame un salut qu'elle considère comme le salut. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Mais quel est ce salut? Qu'implique l'emploi de ce terme? Et comment cette proclamation du salut, qui est, ou qui devrait être le fait de l'Église, comment cette proclamation du salut s'articule-t-elle aux conceptions, aux aspirations des hommes de notre temps? L'emploi du mot salut, dans son sens fort, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement un sens religieux, mais je voudrais parler de sens fort pour l'opposer à un sens affaibli, comme dans l'expression salut lorsqu'on dit bonjour, ou l'expression se sauver lorsque l'on s'en va avant le moment prévu. L'emploi du terme « salut » dans son sens fort implique un péril grave, c'est un premier élément. Il implique aussi une intervention décisive, une intervention généralement énergique qui permet d'échapper à ce péril. Telles sont les deux notions fondamentales qui sont véhiculées dans notre langue par les mots qui appartiennent à cette famille, le mot « sauver », le mot salut. Et la notion d'une intervention extérieure n'est pas nécessairement impliquée dans l'emploi de ces termes. On peut se sauver soi-même, mais nous savons bien sûr que cette idée d'une intervention extérieure est fortement accentuée dans l'Écriture. L'usage de ce terme de salut et du verbe sauver dans une culture que l'on a maintenant l'habitude de qualifier de post-chrétienne, l'usage de ce terme comporte un certain nombre de risques. Je crois qu'on peut dire que pour la plupart de nos contemporains, le terme de salut a une certaine coloration religieuse. Mais le sens et l'utilité de ce terme tendent à devenir de moins en moins précis. Et cette imprécision est source de nombreux malentendus. Malentendus sur la nature même du péril, malentendus sur la nature de l'intervention qui peut nous arracher à ce péril, et malentendu sur l'effet de cette intervention, sur la situation nouvelle de celui qui a bénéficié de cette intervention. Ces trois questions, nous les examinerons successivement, mais pour ce soir, nous nous limiterons à la première. De quel péril sommes-nous sauvés ? Et l'on peut même poser la question de façon plus radicale encore. Y a-t-il un péril dont nous devions être sauvés, dont nous devrions être sauvés ? Poser la question ainsi nous mènera immanquablement à évoquer un certain nombre de menaces objectives auxquelles tous sont sensibles. Une menace sur l'environnement, la pénurie alimentaire dans de très nombreuses régions du monde, crise économique, montée de la violence, développement des régimes oppressifs et par-dessus tout la menace d'un conflit nucléaire. Tels sont les périls communément ressentis à notre époque et dans notre culture. Ces périls assombrissent un présent et comme relativement acceptable, si l'on en croit un sondage réalisé en septembre 83, 24% des Français s'estiment très heureux, 68% s'estiment plutôt heureux, et il n'y a que 8% à se partager les réponses plutôt malheureux ou très malheureux ou sans opinion. Donc apparemment, les gens sont heureux, mais craignent pour leur avenir. Et ici s'arrête certainement, elle s'arrête très tôt, la route qui, de notre culture, pourrait conduire au Christ. La notion de péril est présente, mais cette conscience d'un péril ne conduit pas à l'attente d'un salut, et encore moins à la perception ou à l'attente du salut proclamé dans l'Évangile. Pour essayer d'expliquer cela, on pourrait avancer diverses raisons. Le péril étant essentiellement conçu comme une menace sur l'avenir et moins comme une réalité présente. Plutôt qu'un secours immédiat, ce que l'on espère surtout, c'est que le pire pourra être évité. Ou du moins que le pire pourra être repoussé dans un avenir qui ne nous concernerait plus. À cela s'ajoute un pessimisme assez général. Les problèmes nous apparaissent comme tellement complexes que toute délivrance, au sens fort du terme, paraît exclue. Tout au plus peut-on espérer des solutions partielles, des solutions provisoires, avec un peu de chance, avec un peu de bonne volonté de la part de tous. Quant à Dieu, il est vrai qu'une majorité encore relativement confortable de nos contemporains croit à son existence, mais on peut se poser quand même la question, quelle est cette existence ? Un sondage européen, celui-là, fondé sur une enquête réalisée en 1981, signale que 26% seulement des personnes qui se déclarent protestantes croient à l'existence d'un Dieu personnel. Alors, que signifie croire en Dieu lorsque un quart des personnes se réclamant du protestantisme, seulement un quart seulement, croit à l'existence d'un Dieu qui est une personne ? Dieu paraît un peu en dehors de la question. C'est une affaire qui concerne les hommes. Ce sont les hommes qui menacent leur propre environnement. Ce sont les hommes, ce sont eux qui n'arrivent pas à répartir équitablement entre eux les richesses du sol. Ce sont eux qui, par les armes qu'ils ont imaginées, font peser sur des millions d'êtres humains la menace d'une destruction. C'est donc à eux qu'il appartient de s'entendre pour essayer d'éviter les drames. Et après tout, est-ce vraiment si difficile d'éviter les drames ? Le seul rôle que l'on concède encore à Dieu, c'est celui du conseiller bienveillant et impuissant. Quelqu'un qui tiendrait à peu près ce langage, « Allons les enfants, tâchez de vous entendre. Ne gaspillez pas les biens que vous donne la nature. Pensez à ceux qui ont faim. Et puis surtout, ne vous battez pas. » Dans ce rôle attendrissant, Dieu trouve encore une certaine audience sur la scène du monde. C'est dans ce rôle-là qu'on lui permet encore de figurer. Les autorités ecclésiastiques, d'ailleurs, dans leur déclaration officielle, semblent affectionner particulièrement ce langage-là. C'est en tout cas la version que les médias acceptent de donner de leurs propos. Et dans ces conditions, il semble très difficile de parler de salut. Dans toutes les cultures, la route qui de l'homme devrait conduire à Dieu, dans toutes les cultures, cette route aboutit à une impasse. Tôt ou tard, la route est coupée. Et nous savons par l'Écriture que seul l'itinéraire inverse est praticable. Nous ne trouverons Dieu que si Dieu, d'abord, ne nous rejoint, ne nous trouve là où nous sommes, et si Dieu ne jette sa lumière sur notre propre situation. Ne pas avoir honte de l'Évangile, comme Paul le déclare au début de sa lettre aux Romains, ne pas avoir honte de l'Évangile, c'est croire que cette révélation est vraie, c'est croire que cette parole jette une lumière aussi vive, aussi pénétrante sur la situation des hommes de notre temps. Que dit l'Évangile ? L'apôtre Paul commence son exposé de la doctrine du salut par cette déclaration fracassante : la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Chapitre 1, verset 18 de l'Épître aux Romains. Et l'apôtre Paul va montrer que le péril auquel il nous faut échapper, c'est celui de la juste colère de Dieu. Tous sont inexcusables devant lui, les païens pour avoir détourné leur attention du témoignage que Dieu rend de lui-même dans la nature, les juifs pour n'avoir pas obéi à la révélation spéciale que Dieu leur a faite de sa volonté. Tous sont coupables à ses yeux, ils subissent déjà maintenant les conséquences de leur égarement et ils amassent par leur entêtement un capital de colère pour un jour à venir qui est appelé dans l'Épître de Paul « jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu ». C'est donc une entrée fracassante du vieillard bienveillant auquel nous assistons. Pouvons-nous tenir le même langage ? Cette mention de la colère de Dieu n'est-elle pas anachronique ? à l'époque où l'apôtre Paul écrivait, parlait de la colère de Dieu, n'avait rien de particulièrement surprenant ou choquant pour ses lecteurs. C'est à la colère des dieux que l'on attribuait naturellement la plupart des malheurs, comme les catastrophes naturelles, comme les épidémies, et même les revers militaires. Tout ça, c'est parce que les dieux n'étaient pas contents. En parlant de la colère divine, Paul utilise un langage qui est commun aux païens et aux juifs, un langage qu'emploient les hommes de son temps. Et ce langage, penserons-nous, n'est-il pas le propre d'une mentalité pré-scientifique ? Nous avons appris, quant à nous, à interpréter autrement les événements, qu'il s'agisse de phénomènes naturels, qu'il s'agisse de réalités politiques, de faits de société. Nous avons appris à discerner des causes, des raisons objectives à tous ces phénomènes. Et ceci nous dispense d'aller chercher des explications surnaturelles comme la colère de Dieu. De plus, la colère nous paraît un sentiment indigne de la part d'un personnage aussi respectable que Dieu. Et même en tant que chrétien, nous hésitons à parler de la colère de Dieu. De peur de paraître ridicule, ou de peur de contribuer aussi à jeter le ridicule sur Dieu. Nous préférons parler de l'amour de Dieu. Mais parler de la bonté de Dieu dans un monde aussi tourmenté, dans un monde aussi menacé que le nôtre, dans un monde où il y a tant de drames que le nôtre, pose aussi de très sérieux problèmes. Faudra-t-il parler d'une bonté lointaine, d'une bonté quelque peu inefficace? La bonté d'un Dieu qui contemplerait à distance le spectacle désolant du monde, sans pouvoir faire grand-chose d'autre que de dire aux hommes qu'il les aime et qu'il aimerait tant qu'ils arrivent à s'entendre. Ou alors nous faudra-t-il parler d'une bonté très sélective, dont seuls quelques rares privilégiés pourraient bénéficier, des privilégiés à qui Dieu ferait la grâce de quelques miracles, des miracles personnels, et à qui il accorderait la foi, la santé. De telles présentations de Dieu ne peuvent s'accorder au Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, maître du passé, maître du présent, maître de l'avenir, auquel rend témoignage l'Écriture, et que Jésus-Christ, son Fils, est venu nous révéler. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu à responsabilité limitée, dont la compétence s'arrêterait à certains domaines dans la vie de certains hommes. Tout le concerne dans la vie de tous les hommes, et les grands périls qui menacent notre monde, comme aussi les ennuis et les drames qui frappent notre propre vie, n'échappent pas à sa compétence. Non pas que ces périls constituent le péril dont il veut nous sauver, mais tous ces périls nous y renvoient. Lorsque Paul parle de la colère de Dieu, il fait en fait appel à la conscience que tout homme a de sa propre fragilité, du caractère précaire de ses conditions d'existence, à la conscience qu'il a des nombreuses menaces qui pèsent sur son existence, à la conscience qu'il a de la brièveté de sa vie. Les menaces ressenties aujourd'hui nous renvoient à la même situation. Et c'est ici qu'il faut être attentif au diagnostic que l'Écriture porte sur cette situation. Cette situation tourmentée, précaire, qui caractérise la vie de chaque individu et la vie de l'humanité en général, n'est pas un simple accident. Elle a une cause profonde, dont Paul parle dès le début de son exposé. Il parle d'impiété, d'injustice des hommes, et plus loin il emploiera le mot de péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mise en évidence de cette cause profonde rend illusoire toute solution superficielle, toute solution qui se limiterait simplement aux symptômes, sans s'attaquer à la racine même, à la cause du mal. Soigner un peu le monde, lui éviter quelques catastrophes, ne peut être une solution valable. Même une intervention aussi radicale que le déluge, une intervention qui consistait à éliminer tous les hommes pour n'en conserver qu'un seul et sa famille. Cette intervention-là n'a été qu'une solution provisoire, très provisoire. La violence et le mal n'ont pas tardé à ressurgir. Après quelques générations, et même déjà la première génération a manqué de dignité. La malédiction que Noé prononce sur son petit-fils Canaan ne laisse guère augurer un avenir favorable pour cette nouvelle humanité qui vient d'échapper au déluge. À cette nouvelle humanité, Dieu vient de réitérer les promesses, les bénédictions créationnelles. Dieu les bénit. Mais déjà, un homme maudit. Et très vite, la folie des hommes va les dresser de nouveau contre Dieu dans l'entreprise de Babel. Donc le sort de notre monde, le sort de chacun des individus qui le composent, notre sort à chacun est un sort tragique, car ce monde est atteint d'un mal pernicieux. Sinon, pourquoi les hommes n'arrivent-ils pas à s'entendre sur le problème de la dissuasion nucléaire, par exemple? Au dire de certains, c'est une simple affaire de bon sens. Vu le développement de la technologie, le risque que cette dissuasion fait peser sur le monde est excessif, alors arrêtons la course aux armements, réduisons les armes de part et d'autre. Un petit effort, voyons. Les chefs d'État seraient-ils les seuls à ne pas comprendre ? Ou les seuls incapables? Serait-ce les grands qui sont incapables, ou dont le pouvoir a perverti l'esprit? Mais les petits n'en feraient-ils pas autant s'ils avaient les moyens de le faire? Et les petits ne commencent-ils pas d'ailleurs à en faire autant? Est-ce uniquement alors un problème entre États, une perversité qui est liée à l'exercice du pouvoir? Malheureusement, on peut en douter lorsqu'on voit les difficultés de relations entre membres d'un même groupe, les incompréhensions les suspicions, les divers moyens de pression utilisés par tel ou tel groupe. Tout ceci est à prendre en compte, ainsi que tous les effets matériels, les menaces réelles que fait peser sur l'humanité tout entière le mal, afin qu'on ne fasse pas de la culpabilité un simple phénomène psychique. Alors, il est vrai que le sens de la culpabilité est un phénomène psychique, un phénomène qui affecte le psychisme. Et ainsi, il est normal que les sociologues, les psychologues, les psychanalystes se penchent sur ce phénomène de la culpabilité, essayent d'analyser les divers phénomènes qui sont liés à la culpabilité. Ces phénomènes sont nécessairement complexes car ils affectent un être complexe et perturbé. Et ces phénomènes ont souvent un caractère pathologique. Personne ne pourra le nier. Mais ce qui est indéniable aussi, c'est que cette culpabilité subjective renvoie nécessairement, même si c'est imparfaitement, et même si c'est parfois de façon pathologique, elle renvoie à une culpabilité réelle, objective. Et l'une des qualités de la révélation divine est précisément de mettre en évidence cette culpabilité réelle, de la poser, afin que nous puissions en prendre conscience. Paul s'y emploie avec une vigueur tout à fait particulière, dénonçant, comme nous l'avons dit successivement, le péché des païens et le péché des juifs. Le péché des païens, c'est d'avoir détourné leur attention de la connaissance du vrai Dieu, cette connaissance qui est donnée à tous les hommes par la nature. Ils ont privé Dieu du culte auquel il avait droit. Ils ont reporté leur adoration sur des idoles. Cette ignorance volontaire et inexcusable les a conduits au dérèglement moral. Paul insiste d'abord sur l'homosexualité, et puis arrive pêle-mêle une avalanche de vices plus communs: injustice, méchanceté, cupidité, perfidie, envie, etc. Et quant à celui qui pense pouvoir se distinguer du lot en condamnant la conduite des autres, il est aussi très vertement pris à partie. Lui aussi est considéré comme inexcusable, car il se rend lui aussi coupable des actes qu'il condamne. On remarquera dans ce développement l'insistance de l'apôtre Paul sur la faute religieuse. La faute religieuse qui est la méconnaissance du vrai Dieu. Les fautes morales, les fautes sociales n'interviennent que comme conséquence de cette faute religieuse initiale et fondamentale, et même plus exactement, si on lit l'apôtre Paul, non pas tellement comme conséquence de la faute, mais comme sanction, comme punition, comme châtiment de Dieu. Dieu les a livrés, l'expression revient trois fois. La dégradation du climat moral à laquelle fait allusion l'apôtre Paul est telle, apparaît tellement aberrante, qu'un simple enchaînement logique ne lui paraît pas suffisant pour l'expliquer. Pour que les hommes en arrivent là, il faut qu'ils soient les jouets d'une puissance surnaturelle qui les aveugle, qui les livre aux penchants les plus ignobles, afin qu'apparaisse encore plus clairement la folie de leur faute religieuse fondamentale. Et quant aux Juifs, ils connaissent le vrai Dieu. Ils sont fiers de posséder dans la loi la révélation de la volonté de ce vrai Dieu, leur faute, c'est de désobéir à cette loi, de transgresser cette loi dont ils sont si fiers. La faute des Juifs comprend aussi des aspects sociaux et moraux, le vol, l'adultère. Mais sa nature religieuse, la nature religieuse de cette faute, est aussi très fortement accentuée par l'apôtre Paul. Le Juif déshonore Dieu. Il déshonore Dieu par la transgression de la loi. À cause de lui, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Si la faute des païens, c'est de méconnaître le vrai Dieu, la faute des Juifs, c'est d'allier à la fierté de la connaissance, d'allier une conduite indigne de cette connaissance. Si telle est la faute des Juifs, si telle est la faute des païens, combien plus grande sera la faute de notre Occident moderne? Les païens ont refusé une révélation indirecte, une révélation non verbale, la révélation de Dieu dans la nature. Notre culture refuse et la révélation générale de Dieu, à laquelle l'ampleur de ses recherches scientifiques devrait la rendre d'autant plus sensible, d'autant plus attentive. Et elle refuse aussi la révélation spéciale. Cette révélation spéciale, non pas sous la forme de la loi, qui révèle aux hommes la volonté du Créateur, mais elle refuse, rejette la révélation spéciale sous sa forme la plus éloquente, la plus émouvante, la plus parfaite, la plus sainte, en la personne du Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Il faudrait ici montrer comment notre culture, qui est héritière du christianisme, qui s'inspire toujours d'un certain nombre de valeurs héritées du christianisme, comment notre culture est tout entière fondée sur le refus, sur le dénigrement systématique de cet héritage. René Girard, dans un livre sur lequel nous aurons l'occasion de revenir demain, René Girard, à juste titre, s'en indigne et s'en étonne de ce refus, de ce dénigrement. Tous sont complices, d'une façon ou d'une autre. Les uns parce qu'ils y participent activement, les autres par leur silence, les autres parce que leur attitude fournit des justifications à cette entreprise. Religieux, indifférents, athées, tous se retrouvent impliqués ensemble, comme le montre la démonstration de Paul. Juifs et païens se trouvent enfermés dans la même condamnation. Les païens pour avoir méconnu le vrai Dieu, les juifs pour avoir, par leur attitude, confirmé les païens dans leur refus du vrai Dieu. Rapprochons cela de la perception des périls qui menacent notre culture, et nous comprendrons qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple péripétie dans l'histoire des hommes. D'ailleurs, l'histoire des hommes n'est jamais uniquement l'histoire des hommes. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des rapports entre Dieu et les hommes. Une histoire qui, nous le savons, est marquée par une faute initiale qui la compromet. Aujourd'hui, nous devrions comprendre plus que jamais
à quel point cette histoire est compromise, à quel point cette histoire ne peut aboutir qu'à une impasse. Tel est le sens de la déclaration de Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tel est le péril que dénonce l'Évangile et auquel l'Évangile, dans la personne de Christ, répond. Deux conséquences capitales doivent être tirées de cette constatation. La première conséquence nous concerne personnellement et la seconde concerne les autres et notre responsabilité à l'égard des autres. Première conséquence, recevoir l'Évangile, c'est se reconnaître perdu. Dans l'histoire de chacun, divers éléments peuvent y contribuer. La conscience de la faute, le sentiment personnel d'avoir échoué, une expérience tragique qui ébranle les certitudes tranquilles sur lesquelles reposait l'existence, et bien d'autres facteurs encore que je ne prends pas la peine ici d'énumérer. Mais quoi qu'il en soit, de tous ces événements qui peuvent contribuer à une prise de conscience, fondamentalement, cette conscience de la perdition n'est pas une question d'analyse ou une question de sentiment personnel ou même de sentiment collectif. C'est fondamentalement l'acquiescement à une parole, la parole de Dieu, qui me dit que je suis perdu. Et c'est la réponse à un appel, l'appel de Dieu qui m'invite à croire, qui m'invite à croire en celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxième conséquence, être chrétien, c'est prendre conscience que les autres sont perdus. Et c'est là, il faut le reconnaître, une réalité très difficile à assumer. À moins d'être particulièrement borné, indifférent au sort des autres, particulièrement intolérant à l'égard des opinions contraires aux siennes, à moins d'être toujours convaincu que l'on a raison et que les autres ont toujours tort, à moins d'avoir tous ses défauts, qu'en notre temps tout le monde dénonce, et que l'on reproche souvent, non sans raison, aux chrétiens, à moins d'avoir tous ses défauts, il faut bien dire que la perdition du monde est une vérité très difficile à assumer. Dans l'enquête européenne à laquelle je faisais allusion, 16% des protestants croient à l'enfer, alors que 21% croient à la réincarnation. On préfère penser que les autres seront changés en chats plutôt que de penser à l'enfer. La perdition des autres est une réalité très très douloureuse à assumer. Jésus a pleuré devant Jérusalem en pensant au malheur qui allait frapper cette ville, qui allait frapper ses habitants. Paul au chapitre 9, après tout son exposé sur la doctrine du salut, Paul se lamente. Et en quels termes ? J'ai une grande tristesse, un chagrin continuel dans le cœur, Je souhaiterais être moi-même anathème, séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents selon la chair. C'est une vérité si dure à assumer que les chrétiens au cours des âges ont souvent cherché à l'éviter. Soit en se réfugiant dans l'intolérance et l'indifférence, on se forge une carapace d'intolérance, les autres ont tort, nous sommes les meilleurs. Soit en cherchant à adoucir le sort de l'humanité séparée de Christ. Et comme à notre époque, il est très difficile de se forger une carapace d'intolérance, c'est plutôt la seconde solution que nous choisissons. Mais évidemment, le sort des hommes ne dépend pas de nous. Et tous ces adoucissements n'ont aucun effet, si ce n'est d'endormir notre conscience. Le sort de l'humanité et des individus qui la composent, ce sort dépend de nous en ceci. Nous sommes les témoins du seul Sauveur, Jésus-Christ. Et en ce sens, les auteurs du Nouveau Testament ne craignent pas d'utiliser le verbe « sauver » avec l'homme pour sujet, ce qui peut nous surprendre et même nous choquer. Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 22, « Je me suis adapté à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et il en emploie une expression semblable dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11 et au verset 14. Et lorsqu'il exhorte Timothée à la vigilance, il lui rappelle qu'en agissant ainsi, il se sauvera lui-même et il sauvera ceux qui l'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Alors, il est bien évident que, compte tenu du contexte général de l'Écriture, l'emploi de ce verbe, l'emploi d'un tel usage du verbe « sauver » n'a pas pour but de diminuer l'œuvre du Christ. Comme sauveur, c'est de lui que dépend et dépend entièrement et notre salut et celui de ceux qui nous écoutent. Pourtant, ce que nous apprend l'usage de ce terme, c'est que notre responsabilité est impliquée. Elle est impliquée dans l'œuvre du salut. Nous sommes appelés à sauver. Et nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas en échafaudant des théories sur le salut des païens, mais nous le ferons en témoignant du Christ, le seul Sauveur, sans arrogance et sans crispation non plus, si possible. Sauver une âme, c'est plus délicat que sauver un corps. Pour sauver un noyé, on peut l'empoigner, on peut le mettre KO. Une âme exige certainement un peu plus d'attention, plus d'amour, et aussi plus de dévouement que celui qu'il en faut pour se jeter à l'eau lorsqu'on veut sauver un noyé. Mais je pense que s'il y a des questions, elles peuvent être poser et j'essaierai de répondre à celle que voudrait bien poser. Alors, c'est une question qui relève de cet exposé, donc je ne la reprendrai pas demain, donc je vais essayer d'y répondre. Je reprendrai certains éléments de ce que je viens de dire. La perdition est une réalité qui est très difficile à assumer. Je crois qu'il faut en prendre conscience. Ça ne peut jamais être de gaieté cœur et sans souffrance que l'on peut parler de perdition. Il est vrai aussi que, de notre propre point de vue, il nous semble, je pense que le raisonnement qui est tenu est un raisonnement qui est fort compréhensible, de notre propre point de vue, il nous semble que si Dieu aime les hommes, il devrait tous les sauver. Pourtant, nous ne pouvons pas abstraitement et d'après notre propre point de vue définir ce qu'est ou ce que doit être l'amour de Dieu. Nous ne pouvons que nous en remettre à la révélation qui nous en est faite dans l'Écriture. Nous ne connaîtrions pas l'amour de Dieu et nous ne parlerions pas d'amour de Dieu si Dieu ne nous avait donné son propre Fils pour nous le révéler. Or, les paroles les plus précises concernant le sort éternel des hommes, ces paroles les plus précises ont été prononcées par le Christ lui-même. C'est lui qui parle des ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est lui qui parle du feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. C'est dans la bouche du Christ que nous trouvons les déclarations les plus nettes quant à cette doctrine. Alors, que connaîtrions-nous de l'amour de Dieu si le Christ ne nous l'avait pas révélé? Même si nous avons de la peine à comprendre ou de la peine à admettre, nous sommes bien obligés de nous en remettre au jugement du Christ. Qui a plus aimé les hommes que celui qui a donné sa vie pour eux? Donc, aimer les hommes, si nous voulons les aimer, nous ne les aimerons jamais comme le Christ. Mais les aimer à la suite du Christ ne peut être qu'en suivant son enseignement. C'est donc la réponse que je chercherai à donner à cette question qui me paraît une question sérieuse et difficile. Alors cette responsabilité est mise en évidence par plusieurs textes, par le texte du prophète Ézéchiel où le prophète est décrit comme une sentinelle qui doit avertir du danger. Si la sentinelle n'avertit pas du danger, elle est responsable de la mort des personnes qui périssent à cause de sa propre négligence. Dans quelle mesure notre responsabilité est impliquée, c'est une chose qui est difficile à décider sur le plan des détails. Dans quelle mesure, à un moment donné, nous avons été responsables de telle ou telle négligence, en fin de compte, c'est une responsabilité que nous ne pouvons pas porter à nous tout seuls. Et il est clair aussi dans l'Écriture que le salut est l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, que nous ne pouvons pas par nous-mêmes sauver et que c'est Dieu qui sauve. Cependant, Dieu nous fait l'honneur de nous associer à son œuvre. Et cet honneur qui nous est fait implique aussi une part de responsabilité. Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut considérer devant Dieu. L'Église, dans son ensemble, dans la mesure où elle ne prêche pas le message qui lui a été confié, est responsable de la perdition. Nous sommes aussi personnellement responsables dans la mesure où nous ne rendons pas fidèlement compte du message qui nous a été transmis. Nous sommes aussi responsables dans la mesure où nous n'aimons pas ceux qui nous entourent, où nous les approchons d'une façon qui les repousse. On pourrait développer ce thème. Je pense que également les reproches que l'apôtre Paul adresse aux Juifs en disant que c'est au fond leur faute si les païens méprisent Dieu, ce reproche nous concerne aussi. Et nous avons besoin de recourir à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et également de réclamer son aide pour qu'il nous rende capables de la mission qu'il nous a confiée. Oui, alors, je pense que là, on pourrait citer Mais là, on aborde une question qui est relativement délicate. On peut citer le passage où Paul recommande à Timothée d'être vigilant sur son enseignement, parce qu'en étant vigilant, il se sauvera lui-même et ceux qui l'écoutent. C'est un passage que l'on n'aime pas trop citer dans les églises évangéliques, parce qu'il est un peu désagréable. On a l'impression, pratiquement, que le salut du serviteur de Dieu est presque remis en cause. Dans l'accomplissement de sa mission, il contribue à son propre salut. C'est comme si dans l'accomplissement de sa mission, il contribuait à son propre salut. En restant fidèle au Seigneur, il se sauve lui-même. Alors ici, il y a un lien à observer entre la souveraineté de Dieu dans l'œuvre du salut. Je suis, pour ma part, fermement convaincu que le salut est entièrement l'œuvre de Dieu et que si je suis sauvé, je n'en ai aucun mérite. C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu qui a décidé de toute éternité de me sauver, le Christ qui est mort pour moi, le Saint-Esprit qui a agi dans mon cœur pour me convaincre du péché et de la grâce. C'est Dieu qui est entièrement responsable de mon salut, et c'est en me confiant dans la grâce de Dieu que je puis être assuré de mon salut. Pourtant, l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui est entièrement l'œuvre de Dieu, n'est pas une œuvre qui s'accomplit comme si j'étais un simple objet entre ses mains, comme si je n'étais pas une personne. Dans sa souveraineté, Dieu nous traite comme des personnes. C'est là ce que nous avons beaucoup de peine à comprendre, et nous sommes tentés parfois d'opter soit pour une souveraineté totale de Dieu, et alors nous ne sommes plus responsables, soit pour une souveraineté limitée, et dans ce cas nous aurions une part de responsabilité. Or, je crois que l'Écriture nous enseigne à considérer que Dieu est entièrement souverain, mais que nous avons aussi une responsabilité à exercer dans le cadre de cette souveraineté. Et dans le cadre de cette souveraineté, en tant qu'appelé au salut, en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, je suis ou je dois être quelqu'un qui rend témoignage de la grâce qui m'a été faite. Et il y a dans l'Écriture de sérieuses mises en garde contre ceux qui s'estimeraient trop vite assurés de leur salut. Malheur à moi si je n'évangélise. Je ne pense pas qu'il... J'y reviendrai dans la troisième étude. Un des dangers de notre présentation du salut, c'est de considérer que l'affaire est réglée une fois que nous avons pris une décision. Bon, il est certain que quelque chose de définitif a été accompli. Mais le salut comporte beaucoup d'éléments encore à venir. Et ce serait un danger pour nous d'oublier la persévérance nécessaire, d'oublier la mission qui nous est confiée. Pour dire encore juste deux mots sur la question de notre responsabilité, je crois qu'il nous faut éviter à la fois une mauvaise conscience stérile et continuelle, qui ne déboucherait sur rien. J'ai mauvaise conscience parce que je ne suis pas un bon témoin du Christ et puis ça ne change rien. Je suis toujours un mauvais témoin et j'ai toujours mauvaise conscience. Et puis une bonne conscience à bon marché parce que nous dépendons de la grâce de Dieu et puis bon, tant pis. Je sais que je ne fais pas ce que je devrais, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je crois que c'est une question qui est à prendre au sérieux. C'est la caractéristique, justement, d'un disciple du Christ, qu'à la suite de son maître, c'est une question qu'il prend au sérieux. Oui, je reconnais que vous posez là une question qui, humainement, apparaît insoluble. Je crois, pour ma part, que sont sauvés ceux que Dieu a destinés au salut, et que si Dieu ne décidait pas, personne ne serait sauvé. Et c'est ce qui nous donne aussi, c'est ce qui peut nous donner une grande confiance et une grande assurance dans notre témoignage. Tout ne repose pas sur nos propres épaules ou sur la bonne volonté des personnes à qui nous adressons. C'est l'œuvre éternelle de Dieu, un projet qui a été décidé depuis longtemps et qui sera réalisé, qui s'accomplit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, dit un passage de l'Écriture. Mais d'autre part, Dieu m'appelle à une attitude responsable. Ça, c'est clair aussi. Alors je pense que ces deux vérités qui sont l'une et l'autre affirmées dans l'Écriture peuvent guider notre conduite. La première, pour que nous ne soyons pas écrasés par une responsabilité qui en fait n'est pas la nôtre. Et la seconde, pour que nous ne nous reposions pas de façon paresseuse et indue et en fin de compte blasphématoire sur Dieu pour ne pas accomplir la mission qu'il nous a confiée. Oui, alors le terme d'enfer n'apparaît pas dans l'Écriture, c'est un terme qui s'est développé par la suite. Toute une imagerie y est liée, et c'est ce qui peut en effet expliquer que 16% des protestants déclarent ne pas croire en l'enfer. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient pas à une perdition éternelle? Ça peut encore se discuter. Il est possible en effet que l'usage de ce terme d'enfer ne soit pas nécessairement la meilleure chose qu'il faille faire pour parler de la perdition. L'Écriture emploie des images, les ténèbres du dehors, parle quand même aussi de l'image du feu, mais il faut comprendre que cela reste des images. De toute façon, ténèbres et feu ne vont pas bien ensemble. Il y a l'image de la Géhenne, donc Gehinnom, un endroit où probablement brûlaient des ordures près de Jérusalem. Et je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à ces expressions de l'Écriture, peut-être que d'employer le terme d'enfer. Ça, c'est une question de convenance qu'on peut en tout cas discuter. Oui. Peut-être encore à propos de la responsabilité, pourrait-on citer un texte du livre d'Esther. C'est une réflexion de Mardochée à la reine Esther qui me paraît fort bien reliée la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. C'est au chapitre 4. Je crois que c'est... Oui, c'est au chapitre 4. Mardochée a demandé à la reine Esther d'intervenir auprès du roi pour qu'il annule le décret d'extermination des Juifs. Or, la reine n'est pas prête à se rendre chez le roi, car elle risque la peine de mort si elle se rend auprès du roi sans avoir été invitée. Et l'oncle d'Esther, Mardochée, lui fait répondre « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. » Alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. » Il a là une conscience très forte de la souveraineté de Dieu. Dieu interviendra de toute façon pour délivrer son peuple. Mais si tu n'interviens pas au moment où tu dois intervenir, alors tu seras responsable. Oui, alors, en effet, je pense que votre remarque est utile, et il y a plusieurs textes du Nouveau Testament où apparaît où l'idée d'une responsabilité dégagée, où des personnes dégagent leur responsabilité, sont évoquées. Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, ils ont une certaine mission à accomplir, et à un certain moment, leur responsabilité est dégagée si on ne les a pas reçus. Également, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Milet, il dit « Je suis innocent du sang de vous tous, parce que je vous ai prêché l'évangile fidèlement. » Cela nous paraît peut-être osé, et je pense qu'il ne faut pas se dégager trop vite la conscience, mais il est certain que le messager du Seigneur, le chrétien que nous sommes, peut, dans certaines circonstances, dégager sa responsabilité. J'ai fait ce que j'ai dû. Et d'ailleurs, le texte d'Ézéchiel parle aussi d'un veilleur dont la responsabilité est dégagée. Il a averti. Et on n'a pas tenu compte de son avertissement.
Oui, pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une perversion du témoignage chrétien que de soigner les symptômes. C'est bien dans la ligne de l'Évangile que le chrétien est quelqu'un qui porte secours aux autres. Donc, que l'Église soit sollicitée pour intervenir, je pense que c'est parfaitement légitime, et que l'Église se sente sollicitée pour porter secours à ceux qui sont dans la détresse, je pense que c'est également légitime. Mais il est clair qu'il y a, il risque d'y avoir un déplacement de l'Évangile si on s'intéresse uniquement aux symptômes, sans les percevoir comme des châtiments de Dieu, comme des périls qui renvoient à la situation dramatique de l'homme qui est celle d'un être séparé de Dieu. Peut-être devrais-je ajouter aussi que il ne faudrait pas que le chrétien conçoive sa mission comme consistant à relever systématiquement tout ce qui va mal dans le monde pour le faire remarquer à ses contemporains. Je pense qu'il La plupart de nos contemporains sont assez grands pour le voir et pour le constater eux-mêmes. L'apôtre Paul, dans ce développement des premiers chapitres de l'Épître aux Romains, parle de la bonté de Dieu. C'est aussi un thème qui revient souvent dans sa prédication, et principalement la prédication aux païens. Le monde tel qu'il est actuellement témoigne aussi de la bonté de Dieu. Et l'apôtre parle de la bonté de Dieu qui t'appelle à la repentance. Et certains chrétiens, malheureusement, s'imaginent que leur mission consiste à exploiter systématiquement tout ce qui va mal. Alors que le monde étant gouverné par un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, il nous faut aussi rendre compte et témoigner de cette bonté du Créateur envers toutes ses créatures.